Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment-devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Nous sommes dans le troisième et dernier épisode de notre série Velvet Rage, grandir gay dans un monde hétéro. Première partie, c'était... Attends, faut que je mette dans les conditions de quelqu'un qui n'a jamais écouté les deux précédentes parties. Première partie, c'était je suis gay et je regarde l'impact de la honte et comment cette honte peut encore impacter aujourd'hui, plus tard, adulte, via partie 2, épisode 2 de ce livre, les stratégies de survie et d'évitement. Je parle bien entendu, l'ai-je dit, de Velvet Rage. Non, je ne l'ai pas dit, ça n'a aucun... cette intro est un bordel. Il est 20h40 et moi, le matin, je me lève entre 4 et 5 heures du matin. Ok, on est dans les coulisses du... Donc moi, à 20h40, normalement, les gens, il n'y a plus personne, en fait. Je suis avachi sur mon canapé et je joue à Tomb Raider. Bon. C'est pour ça que cette intro n'a ni queue ni tête. Donc je reprends, on a un super livre qui s'appelle Velvet Rage. Là, je suis avec des auditeurs et autres, Mathias, Baptiste, Thomas et moi. Tous les quatre, on a lu ce livre, Velvet Rage. Un psy américain gay, Alan Downes, a écrit ce bouquin et en 2006. Et il est plein de concepts et de pépites. Tous les quatre, on s'est dit que ça avait beaucoup résonné pour nous. Et j'ai trouvé ça super intéressant de vous faire parler sur comment ce livre vous a impacté. On a fait deux épisodes. Partie 1 sur la honte d'être gay. Partie 2 sur les stratégies de survie. Et tout ça, ça sert à comprendre le ou les problèmes pour être sur son chemin d'authenticité, qui est notre troisième partie. Il y a dans cet épisode un cadeau. Même deux cadeaux, car Mathias Chaillot qui est avec moi. Mathias, coucou Mathias.
Coucou.
Il est écrivain, il a pris sa plus belle plume, il a écrit un super bouquin qui s'appelle 4% en théorie. On a tous les deux enregistré deux épisodes qui sont super, qu'il faut aller retrouver. Mathias, je crois que ton titre c'était « Pourquoi je suis gay ».
Oui.
Ton livre c'est « Une enquête scientifique et un propos intime car tu es toi-même gay ». Tu vas pouvoir dire deux phrases sur ce livre que les gens devraient bien entendu acheter, car ils ne peuvent pas l'écouter. En livre audio, non, ça, il n'est pas encore dispo, c'est vrai.
Encore,
hein?
Non.
Il faudrait avec ta voix douce et suave. En tout cas, grâce à ta maison d'édition qu'on n'a jamais mentionnée sur ces deux
éditions Goutte d'Or. Ils vont vouloir.
C'est vrai ou pas?
Non.
Rap podcaster de Pocati, merde. Bon, on le redit une deuxième fois.
Édition Goutte d'Or, une voilà. Super maison d'édition.
On l'a dit, c'est vrai?
Ouais, vraiment. Okay.
Eh bien, ils offrent à deux auditeurs qui peuvent habiter n'importe où dans le monde deux livres. Pour ça, il faut aller sur le site bit.ly/comment-devenir, site du podcast où on remplit le petit formulaire que j'ai créé de mes douces mains. J'avais aussi une autre intro à faire qui était « J'ai un programme d'affiliation avec Audible, une plateforme de livres audio. C'est gratuit pendant 30 jours. Si tu cliques sur le lien que moi j'ai fait, 30 jours gratuits. Ce lien, il est sur le site du podcast. Et c'est vraiment cool. Il y a Velvet Rage, donc le livre qu'on est en train de, sur lequel on rebondit, que je trouve être quand même un bouquin super. Enfin, moi, je suis vachement content de l'avoir réécouté en livre audio. En plus de ce bouquin, tu as un crédit pour prendre un autre livre audio que tu garderas une fois que tu résilies. Il y a sur le lien, là, sur mon site, j'ai mis des recommandations, lecture. Et j'ai un peu le rêve secret de créer un book club. Franchement, je trouverais ça... Ouais, je trouverais ça cool.
Ouais.
Bon, un autre projet, s'il y a des auditeurs qui sont chauds, je trouverais ça chouette. Parce qu'en fait, il y a pas mal de bouquins qui ont conceptualisé l'homophobie internalisée, l'enjeu de l'épanouissement, de la sexualité gay. Et je trouve ça chouette de pouvoir les lire et de diffuser leur pouvoir.
Le book club des PD, ouais.
Le book club des PD, bon. Pour ce faire, et en plus, ça donne 10 € au podcast. Si tu cliques sur le lien d'affiliation, même si jamais t'écoutes de livre et que tu résilies immédiatement... c'est sympa parce que c'est 10 €. Je trouve ça pas mal, hein. Franchement. Allez-y, c'est chouette. Et écoutez ce bouquin Velvet Rage, dont on va parler sur la troisième partie du chemin d'authenticité. Est-ce que, dans mon intro, j'ai oublié un truc, un contexte essentiel?
Non.
Bah, c'est quoi la troisième partie, mais je...
Libérer de ses impacts et ses stratégies, là, dont on vient de parler sur les deux précédents épisodes. La troisième partie du bouquin, c'est alors trouver son chemin d'authenticité. Je fais comment ? L'auteur du livre donne 12 conseils. Est-ce que je commence par vous les lire ? Ils sont rapides. Moi, je pense que oui.
Bah alors oui.
Premièrement, c'est reconnaître et adresser la peur du rejet. Explorer les origines, prendre le temps de comprendre d'où vient la peur du rejet, souvent enracinée dans des expériences d'enfance ou de jeunesse liées à l'homophobie, à la stigmatisation ou au rejet personnel. Et ça, on en a pas mal parlé dans le premier épisode. Et Alan Downs, le psy, en parle dans la première partie du livre. D'en reconnaître et adresser la peur du rejet, il y a le travail thérapeutique, engager un travail avec un thérapeute pour adresser et guérir les blessures passées qui alimentent la peur du rejet, échanger les schémas de pensée négatifs. Le deuxième conseil, c'est développer l'estime de soi. Ai-je dit que c'est ChatGPT qui a produit tout ça, hein? Parce que si c'est de la merde, c'est pas ma faute, c'est juste que je suis un professionnel. Non, j'ai trouvé ça intéressant, franchement, et moi j'ai relu, je trouve ça pas mal. Étape numéro 2, développer l'estime de soi. Autocompassion, pratiquer l'autocompassion et la gentillesse envers soi-même, reconnaissant que la recherche d'acceptation commence par l'amour et l'acceptation de soi. Et aussi l'affirmation et les objectifs personnels, utiliser des affirmations positives et se fixer des objectifs personnels qui renforcent l'estime de soi, indépendamment de l'approbation externe. Tout l'enjeu étant, dans la partie 2, l'épisode 2, on a parlé des stratégies de survie et d'évitement, et notamment c'est d'enfiler des masques, soit hétéronormés en mode « je reproduis exactement ce que les hétéros font, comme ça on va m'aimer », soit « je deviens cet être parfait en sport, ce corps parfait parce que je me muscle non-stop, pas pour moi mais pour les autres, parce que je fais une carrière que les autres valident, pas pour moi mais pour les autres ». Donc c'est de passer à « je fais pour les autres » à « je fais pour moi ». Est-ce que je vais... Une de mes questions, et je vais m'arrêter là, sinon je vais parler 1000 ans. Donc là, on a juste fait 2 points sur les... On a fait 4 points sur les 12, mais j'ai envie de vous saisir là-dessus. Moi, ce que j'observe, c'est que, en fait, comment je fais la différence entre je fais de la musculation pour les autres et je me sculpte le corps comme stratégie de pas authentique, quoi, versus, bah non, désolé, en fait, moi, je kiffe ma petite routine muscu. Mes petits œufs durs, je fais pas de musculation, donc je sais pas de quoi je parle, mais j'ai un partenaire romantico-sexuel qui fait de la musculation, donc je sais un peu. J'ai ici, parce que vous êtes chez moi dans mon salon, un paquet de poudre.
Protéiné.
Perso, je suis contre. Perso, bon. Et je me fais engueuler, il me dit « fous-moi la paix ». Il a bien raison. Ouais, non, j'avais cette question-là, et moi je peux commencer par un exemple perso qui est le surtravail. Donc moi, il y a eu toute une période de ma vie où je travaillais chez MSF, comme je disais dans un épisode précédent, où je le faisais parce que ça me plaisait, mais aussi parce que ça me faisait gagner du statut social. Et je surcompensais la honte d'être gay en voulant être parfait professionnellement et du coup validé par les autres. Aujourd'hui, je travaille tout autant, voire plus. Et je me suis posé la question, est-ce que je suis dans la même stratégie de surcompensation, d'hyper-performance ? Et ma réponse était non, notamment je travaille énormément sur le podcast qui est mon boulot à temps plein, parce qu'en fait pendant plein de temps personne n'écoutait ce podcast et que j'en avais pas rien à foutre, mais que vraiment je fais ces épisodes pour moi quoi. Honnêtement, si là il n'y avait pas de micro, le micro c'est un super prétexte pour vous faire venir chez moi et vous entendre parler de ce livre et comment il a résonné pour vous, mais moi je le ferais pareil sans micro quoi. En fait, j'ai vraiment envie, mais ouais, ce bouquin, il a résonné comment pour toi ? Comment c'était ? Et donc, et aussi, là où je me sens authentique et là où c'est essentiel de l'être parce que ça te permet d'être fort, c'est qu'en fait, je me fais défoncer, quoi. Comme c'est un discours public, je suis toujours trop con, bête, je pose les mauvaises questions, je parle trop ou pas assez. Alors, c'est... Et puis, Et donc, en fait, il faut que je sois vachement ancré dans mon authenticité, en mode, ouais, mais moi, je sais pourquoi je l'ai fait, je trouve ça stylé, et puis j'ai plein de choses à apprendre, hein. Je dis pas que je suis parfait, mais... Parce que si je le faisais pour le regard de l'autre, ça serait une vraie souffrance. Après, je reçois plein de compliments, hein. J'essayais pas de dire... Mais c'est ultra violent, quoi. Bon. Vous avez, vous, une stratégie qui avant était assez nocive selon vous et peu authentique et qui était plutôt une façon de remplir un vide, qui en fait s'est mise à jour et qui est encore présente dans votre vie et qui est authentiquement vous? Baptiste.
Moi, mais en fait, c'est un peu la même que toi. Tout à l'heure, je parlais de l'ambition, la carrière, faire des bonnes études et tout. Et aujourd'hui, j'ai un boulot où je fais des évaluations de politique publique en santé. Et je sais que mes études et tout, je les ai faites pour être validé, pour être le meilleur, pour être, etc. Mais en vrai, aujourd'hui, bah, je trouve ça hyper intéressant ce que je fais, quoi. Quand je prends du recul, je sors un peu la tête du guidon. Bon, évidemment, il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime moins. Mais... bah, y a une part de moi qui est là, putain, mais c'est quand même hyper stylé, quoi. J'arrive à chiffrer, un truc auquel j'ai contribué, j'arrive à chiffrer que, exemple complètement random qui n'a rien à voir avec notre sujet de conversation, en soins palliatifs aujourd'hui, il y a à peu près 400 000 personnes qui ont besoin de soins palliatifs aujourd'hui. En France, il y a à peu près un quart, un tiers qui reçoivent ces soins palliatifs. Et avec le baby boom qui arrive à l'âge de la retraite et de la mort, ça va augmenter jusqu'à 500 000 en 2050. Et déjà qu'aujourd'hui, on ne remplit pas les besoins d'aujourd'hui, et ben en fait, comment on va faire dans 30 ans pour remplir ces besoins de soins palliatifs? Comment on va s'occuper des gens? Donc en fait, il y a des questions sociétales hyper prégnantes que mon boulot me fait poser. Et je me dis, putain, en fait, c'est hyper stylé. Je trouve ça trop cool. Et ça, c'est moi qui kiffe, en fait. Mmh. C'est pas le Baptiste qui veut être dans cette institution prestigieuse qui fait ses évaluations importantes, quoi.
Ouais. Quelqu'un d'autre. L'autre chose sur laquelle on peut rebondir, c'est le travail thérapeutique qui est invité par... Et je vous ai souvent entendu, là, dans les épisodes précédents, dire « Mon psy m'a dit hier que... » Tout le monde est en thérapie?
Je viens de reprendre, moi.
Mathias vient de reprendre, Thomas. Baptiste, depuis 2 ans.
Moi, c'est par cycle depuis l'âge de 14 ans. Mais au début, c'était plus quelque chose de pareil. On avait un peu honte de dire qu'on allait chez le psy. Pourquoi on allait chez le psy? C'est que t'as des problèmes. Ah oui, c'est quoi que tes problèmes? Tu veux pas parler de tes problèmes? Jusqu'à aujourd'hui, même je conseille à des amis d'aller voir des psys. Et c'est comme la phrase un peu bateau, c'est comme aller chez le dentiste, en fait. C'est prendre soin de son cerveau, c'est de l'hygiène émotionnelle, ça fait partie de la santé, quoi.
Et dans ta thérapie, est-ce que tu as suivi le conseil de Alan Downs d'explorer les origines? Est-ce que ça t'a aidé? Parce que j'imagine des auditeurs se dire, non mais moi les gars, j'ai autre chose à foutre que d'aller revivre un passé traumatique et faire ressurgir des trucs. Voilà, moi aujourd'hui, j'ai 20, 30, 40, 50. Thomas, t'as vu l'intérêt de remettre des mots sur ce passé?
Ouais, complètement, puisque ça m'a permis de me mettre dans une dynamique de réparation de trauma. De l'enfance ou de l'adolescence suite à un trauma récent qui était intense, enfin que j'ai vécu intensément, donc une séparation d'une relation qui était courte mais très très passionnelle et très intense où pour moi c'était bon, enfin j'avais 35 ans, j'avais rencontré, c'était l'homme de ma vie, ça a été un coup de foudre, sauf qu'en fait ça a été un épuisement constant à essayer encore d'être dans cette validation. À me dire mais c'est bon, il faut que je sois en couple, il faut que j'y arrive, il faut qu'on fasse des projets. Et en fait on était deux êtres humains un peu dans la même dans le même conflit intérieur. Du coup il y a eu un effet miroir très fort et le miroir s'est brisé, donc la relation s'est brisée.
Et ça tu le lis à le défi de grandir gay dans un monde hétéro?
Ça a été pour moi une sorte de promesse que je me suis fait à moi-même, c'est ok, c'est pas la première fois que je vis ce genre de situation, qu'est-ce que je fais pour ne plus vivre ça? Comment? Et au début ça passe par bon bah j'arrête les relations, je suis pas digne d'être aimé, et il en parle dans le bouquin, toujours ce sentiment, la haine de soi, c'est toujours les autres, enfin on a l'impression que les autres nous renvoient à la tristesse, et donc dans ces relations-là, d'entendre l'autre nous dire « Ah bah, ça se voit que t'es triste, tu portes la tristesse sur toi », des choses très dures. Et donc cette promesse à moi-même de dire « Ok, bon là j'ai en fait une opportunité de célibat, bah je vais aller explorer dans le passé, explorer dans le présent, et bah aller vers
l'authentique,
comment on dit, l'authentique, le contentement, comme il dit, pour comprendre qui je suis. Mmh. Ça a été un point de départ. Ouais.
Baptiste ?
Ouais, moi, en fait, ce que j'aime bien dans ma thérapie, et c'est, en fait, c'est un des principes, moi, je fais une thérapie gestalt, et dans le gestalt, eh ben, tu pars de ce qui est vivant là maintenant. Et donc, en fait, je ne suis pas allé gratuitement, enfin, pas gratuitement, mais chronologiquement, ok, à 5 ans, à 6 ans, à 8 ans, je ne sais pas quoi, mais en fait, c'était ok, bah, en ce moment, je vis ça. Et puis j'explique à mon psy et tout, il m'explique. Et parfois il me pose des questions aussi sur ok, est-ce que ça a des échos ? Et là on va aller voir, ah mais en fait ça fait un parallèle à ce que j'avais dit il y a 3 semaines sur mon père, ou à ce souvenir d'enfance et tout. Donc en fait c'est à partir de ce qui est vivant là maintenant et ce que je vis là maintenant, je vais aller commencer à tirer les fils et aller chercher dans le passé ce qui a fait écho et tout. Et ça je trouve ça, enfin moi je kiffe.
Non, je sais pas si j'ai envie de parler de ma thérapie,
mais je peux te dire d'autres conseils pour te faire rebondir.
Là-dessus, moi, je trouve ça super intéressant. Je fais de la psychanalyse à un moment, justement. Donc là, c'est vraiment, tu vas creuser à la pelle dans ton enfance. Mais moi, ce que j'ai trouvé super intéressant dans le bouquin The Velvet Rage, ce que je fais pas ou pas assez, c'est qu'à un moment, il te dit, voilà, on a fait 2 parties pour t'expliquer comment il faut et pourquoi il faut creuser. Mais la 3e partie, en fait, il faut te sortir les doigts et c'est pas juste regarder d'où tu viens, c'est faire quelque chose de ça. Et c'est peut-être, j'ai changé de psy, peut-être pour ça, peut-être que c'est la suite, mais lui parle de thérapie cognitive et comportementale, donc vraiment dans l'action. Donc ça que je trouve intéressant et à explorer. J'ai pas de leçon puisque je vais explorer. J'y vais.
Tu es en chemin.
Je suis sur le point de départ pour l'instant.
Ouais. Ah, tu dis ça en rigolant.
Ouais, je rigole un peu, mais effectivement, il y a vraiment ce truc de.
Non, mais
à un moment, il faut pas se contenter. Parce que moi, ça m'a fait beaucoup de bien, mais peut-être aussi que je me suis contenté de dire tant que j'ai pas trouvé pourquoi j'ai tel comportement, je vais pas changer ce comportement. Et en fait, peut-être que je me suis un peu contenté de ça, justement.
Mmh. Parce que on se connaît pas bien, Mathias, mais
pas encore.
J'ai lu ton livre dans lequel je trouve tu racontes. Je te dis pas. Le chemin s'est terminé, puis d'ailleurs je crois que cette dernière partie du chemin de l'authenticité, c'est toi Thomas qui le disais, moi mon point de vue personnel c'est qu'on se construit et reconstruit, on se coming out sans cesse et c'est super joyeux quoi, c'est des nouvelles, je sais pas, des nouvelles facettes et tout, moi je trouve que dans ton livre, et je crois qu'en intro j'ai dit que t'allais dire un mot sur ton livre et puis je t'ai zappé, mais tu racontes quand même un cheminement intime qui n'est pas du tout genre je suis au tout début à la ligne de départ de cette 3e partie d'authenticité.
Non, je caricature peut-être, mais j'ai un peu le sentiment, moi honnêtement, dans mon cas, que c'est quelque chose d'assez récent. C'est-à-dire qu'il y a eu toute la période où je suis allé très fort sur toutes les techniques justement de survie, de contournement. Donc je suis allé très fort dans le boulot, je suis allé très fort dans le sexe, je suis allé très fort dans les substances, etc. Et que depuis quelques années... J'ai commencé à me dire, tiens, j'ai peut-être essayé d'y aller un peu fort sur le yoga ou la méditation. Là, je suis peut-être allé trop, très fort aussi, donc j'ai peut-être toujours voulu y aller de façon un peu intense. Ouais, je viendrai à tes stages.
T'as dit quoi, Baptiste ?
Je dis, viens au tantra.
Ok, ça y est, tes stages, ça, j'ai pas encore essayé. mais c'est un chemin qui a commencé il y a quelques années, de me dire, bon, maintenant... Mais du coup, qui est récent. Enfin, j'ai l'impression que pour moi, dans mon parcours, il y a eu beaucoup de bricolage, et là, je commence en veille couche, quoi.
Dans ton livre, tu reviens sur les différentes réflexions, théories et études de les origines de l'homosexualité, plus ou moins
c'est
bien
ça.
Dit, c'est pas mal. Et en parallèle, tu racontes toi ton cheminement de pourquoi je suis gay, tu poses cette question large et tu racontes un peu ta vie. Et ce que j'ai trouvé vachement puissant, c'est ton rapport à ton entourage, à tes parents. Et tu m'as dit que écrire le livre avait eu un impact sur ton rapport aux autres. Mais je sais pas si j'ai le droit de le dire. Je crois pas que ça soit de ouf intime.
Non, mais vas-y.
Mais tu sais, je t'ai dit, il y a un auditeur qui a écouté tes épisodes et qui, du coup, a acheté le bouquin, qui l'a offert à je sais pas qui, nanana, puis racontait le chemin de ton bouquin. Est-ce que ça avait résonné pour lui? Tu m'as dit, à moi, pareil. Maintenant, ma mère l'a proposé à une amie de ma mère, enfin tu m'as dit
il y a tout mon village de naissance, voilà. Qu'il a lu, alors que l'homosexualité était un sujet plutôt tabou dans ma famille, enfin tabou, j'ai été accepté, mais on se vantait pas d'avoir un fils pédé en fait.
Est-ce que tu viens d'un petit village?
Oui, un petit village dans le Cher, dans la région centre.
Est-ce que ce cheminement là Est-ce que justement ce livre et aussi ces nouveaux liens avec ces mises à jour avec ton entourage, ça a eu un impact sur ton chemin d'authenticité?
Je pense que ça a été un outil. Ce que je disais, j'ai beaucoup utilisé mon travail pour me psychanalyser ou avancer. Donc effectivement, ça a peut-être été un outil, ne serait-ce que pour dépasser cette question, qui était une question un peu honteuse. C'est-à-dire que pourquoi je suis gay, c'était aussi pourquoi je suis pas comme les autres. Et donc il a fallu peut-être que je fasse le tour de la question et que du coup j'en ai fait un objet et mon travail pour pouvoir aller au-delà et arriver à la partie, ok, bah, qu'est-ce que je fais de ça maintenant? Qu'est-ce que je fais de toutes ces possibilités? C'est ce que tu disais tout à l'heure, tu citais Didier Ribon, cette capacité finalement à cette possibilité de créer, d'avoir tous les possibles devant nous, quoi. Ce qui est un peu flippant, du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Donc peut-être que j'essaye d'arriver à cette étape-là, ouais, je pense que ça a été un pivot, peut-être.
Thomas?
Je rebondis parce que ça me fait penser à ce que tu évoquais tout à l'heure, Guillaume, du vertige. Et donc il y a ce premier vertige du premier coming out. Enfin, c'est même avant le coming out, je dirais, c'est conscientiser qu'on est homosexuel. Donc là, ça devient vertigé de nous dire « Ok, qu'est-ce que je vais faire de ça ?» Et après, il y a ce deuxième vertige où on conscientise qu'on peut être qui on veut. Et du coup, c'est d'autant plus vertigineux. Et ouais, ça peut faire, là encore, peur. Et aller vers plein de directions différentes.
Y compris peut-être des directions un peu... Ben moi, en tout cas, je sais que quand j'ai eu trop de directions, à un moment, j'ai pu glisser, quoi. Donc,
ouais.
Ça, effectivement, c'est ouais, vertigineux, c'est le mot, ouais.
Et ça, j'ai trouvé que Alan Downes, il le disait vachement bien dans l'interview que j'ai écoutée de lui, et je ne l'ai pas entendu dans le livre, mais il disait, en fait, apprendre à être... Une des clés, c'est apprendre à être vulnérable pour pouvoir tester, échouer... Et que cela ne vienne pas tout remettre en question sur ta valeur, etc. Parce que si tu es dans des stratégies où ce que tu fais, ce que tu produis, le travail et où les œuvres d'art ou que sais-je, ça te définit, ça te donne de la valeur, bah du coup, si tu échoues, tout s'effondre. Et l'idée, c'est cette partie 3, c'est de bien séparer en disant bah, je me kiffe et en fait, je vais essayer un truc, que ça marche ou pas, c'est pas ma valeur qui est en jeu, là, c'est le petit projet que j'essaye de faire. J'essaye de me rencontrer, donc je sais pas, je vais essayer différentes activités, différents types de relations, différentes expériences en prenant soin de moi. Et c'est parce que ça échoue que je vais apprendre. Et en fait, lui, il dit, et moi j'aime bien ça, bah en fait, faut oser, vas-y, par petits pas, hein, pas se violenter et tout, mais. Et donc, quand tu disais, oui, une fois qu'on est ultra libre, parce que nous, on est quand même dans un pays où on a la chance de pouvoir avoir cette liberté. Puis à peu, elle devient un peu écrasante parce qu'on est là, mais attends, mais je peux aller n'importe où, je peux aller partout. Qui suis-je et où vais-je? Qu'en plus, on se dit, vas-y, je prends pas les normes pour quadriller mon chemin. Donc, je m'autorise aussi à aller au-delà. Ça peut être vertigineux. Et à la fois, si on se dit, bah, je vais faire des essais, des échecs et petit à petit trouver le chemin, quoi. Moi, ça m'inspire. En tout cas, moi, c'est un récap pas mal de cette étape 3 du chemin vers l'authenticité, quoi. C'est m'autoriser à échouer.
Ouais, je réagis parce que ça me parle beaucoup dans le sens où on parlait tout à l'heure, je crois, du dialogue avec soi-enfant. Soi-même, l'enfant, le petit enfant, le petit Guillaume, le petit Mathias, le petit Baptiste et le petit Thomas. Je sais pas, imaginons qu'on est, là, on a 7, 8 ans, 10 ans. Moi, ce chemin-là, cette exploration d'aller vers des choses qui me font peut-être un peu peur, mais en même temps qui attisent ma curiosité, bah, je me réfère souvent au Thomas enfant. Là, même au présent, je me dis, ah, qu'est-ce qu'il ferait s'il avait eu l'autorisation de le faire? Parce qu'il y a eu tellement de moments où on a eu des injonctions à ne pas faire. Et en fait, dans mon cas, ce qui est très fort, c'est qu'il y a eu beaucoup d'années jusqu'à le début de l'adolescence où j'ai pu faire des choses. Je faisais de la danse, je faisais de la gym, je jouais à la poupée, enfin des trucs hyper caricaturaux. Mais en fait, ça me procurait beaucoup de joie et c'était pas un problème. Et il y a eu je suis encore aujourd'hui sur un chemin à essayer d'identifier qu'est-ce qui s'est passé. Mais il y a eu un turning point. Où c'est devenu source de tristesse, en fait. Mmh. Voilà. Et là, aujourd'hui, je suis en train de me réconcilier avec ça, parce qu'aujourd'hui, je refais des choses que je faisais quand j'avais 8-9 ans, quoi.
Moi, ça me parle énormément. Moi, quand j'étais... Enfin, me reconnecter à cette joie enfantine, il y avait... Moi, j'avais créé un journal. Et je me souviens très bien, tu vois. J'avais créé un journal. Je kiffais, hop, faire mon petit journal sur l'ordinateur. Je l'avais imprimé. Et puis après, j'étais allé taper à toutes les portes pour le vendre. Et en fait, aujourd'hui, adulte, c'est exactement ça que je fais. Sauf que c'est pas un journal. Parce que j'aime en fait pas trop écrire. Non, mais c'est vrai. Et franchement, ça m'inspire énormément. Et pareil, tu vois, les jeux vidéo, là, c'est... Je me réautorise. Et en fait, c'est vraiment un truc... moi, je trouve c'est trop cool. Et ça me... Mais c'est vrai que c'est souvent, je me reconnecte à des joies enfantines. Je continue la petite liste. Notre troisième point... J'ai dit 12. Mais bon, j'ai pas la bonne numérotation. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le septième point, construire l'authenticité dans les relations. Vulnérabilité consciente, oser être vulnérable avec les autres, ce qui implique de partager ses pensées, ses sentiments et ses peurs les plus profondes dans le contexte d'une relation de confiance. Alan Downs mentionne aussi la communication ouverte, développer des compétences en communication pour exprimer ouvertement besoins, désirs et limites dans les relations. Donc là, on est dans le consentement. Autre conseil, identifier et modifier les modèles relationnels superficiels. Je répète, identifier et modifier les modèles relationnels superficiels. Il nous invite à réfléchir sur les relations passées, réfléchir au schéma des relations passées pour identifier les comportements récurrents qui empêchent l'intimité profonde, comme éviter les conflits ou privilégier les relations basées sur des critères superficiels. Il nous invite à faire des choix conscients sur les personnes avec qui on choisit de passer du temps, en privilégiant celles qui sont ouvertes à l'intimité émotionnelle et qui partagent des valeurs similaires. Tout le monde a eu une petite réaction de corps là, sur mon canapé. Quelqu'un veut rebondir?
Allez-y, je vous laisse.
Ah, moi, ça me parle énormément. Ça vous parle pas? C'est pour ça que vous êtes...
Si, ça parle beaucoup. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des silences. C'est que justement, c'est.
On réfléchit en même temps.
Ça fait écho. Et je pense que c'est l'écho qui fait silence.
Ouais.
Mais tout à l'heure, je parlais de cette promesse que je m'étais fait à moi-même de ne plus revivre ces relations traumatiques. C'est un chemin d'authenticité et d'écoute et de mieux exprimer ses besoins et de poser la question à l'autre aussi, quels sont ses besoins, quelles sont ses limites. Et ça, dès la rencontre, que ce soit juste pour une heure ou une nuit ou un week-end, que ce soit amicalement ou même avec des partenaires sexuels, c'est quelque chose que j'essaye de mettre en pratique.
C'est super dur.
Et c'est super dur.
Ouais.
Et en même temps, comme moi-même, je vais poser mes limites dans des interactions, que ce soit en soirée ou sur des applications de rencontre, mais je me pose des limites à moi-même, c'est-à-dire non, je n'irai plus vers ce type de profil-là. Je sens que ça peut vite glisser. C'est le red flag, quoi.
C'est des profils, c'est des types de comportements. C'est des gens sur Grindr qui disent certaines choses qui t'alertent.
Ouais,
c'est ça,
ou des modes d'approche.
Genre cesser,
je ne vais même plus répondre.
Cesser, c'est coucou.
Ouais, voilà.
Mais j'ai coucou. Pas le temps d'écrire.
C'est vraiment.
SLT.
Tu vois que t'as affaire à quelqu'un qui a la flemme de faire un effort et de prendre soin d'une relation. Moi, je l'interprète comme ça. D'autres modes d'approche, c'est je t'envoie tout de suite la photo de ma bite. Moi, une photo de bite, ça ne m'excite pas. Donc, je bloque direct. Des petites choses comme ça. Donc, une bite, en vrai, oui, ça m'excite, mais une photo de bite, franchement, moi, je trouve ça très moche en photo. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'expérimente et je vois finalement... Je vais moi-même être moins dans un... J'étais beaucoup dans une attente d'interaction que maintenant à être plus authentique avec moi-même et dans mes besoins de relation, surtout sur les applications. Je suis moins dans l'attente. Parce que je suis plus exigeant.
Et puis plus aligné. T'as l'air de dire que t'es aussi plus au clair avec ce que tu veux et tu poses mieux tes limites en disant bah non ça je veux pas, tu poses plus ça, ouais.
Ou même un autre exemple, ça va être dans des interactions où je sens que le partenaire va être très très dans la séduction, très vite, très à me faire plein de compliments, bah je vais modérer, enfin je vais être dans une forme de modération, parce que moi-même j'ai eu des relations où je me suis très vite emballé en rencontre, et je le fais encore aujourd'hui, mais je me mets des freins moi-même, j'ai dit oh Thomas arrête, et mes amis me connaissent par cœur, mes meilleurs amis qui me disent bon alors c'est qui ton nouveau crush, c'est qui, et là dernièrement bah, ils sont un peu je les prends un peu à rebours parce que je leur dis bah j'en ai pas en fait en ce moment, ah bon et tout, c'est bizarre, et du coup c'est voilà, de poser des limites dans le espèce d'emballement à chercher de la validation chez l'autre. C'est ça, c'est de quoi ça parle, c'est parce qu'on a peur de pas être bien, on a peur de pas être performant, surtout dans la relation, donc faut tout de suite s'afficher comme voilà super avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'emballement, beaucoup de passion, tout ça, et en fait ça dure pas, enfin d'expérience ça ne dure pas, mais c'est que mon expérience.
Baptiste, Mathias,
vas-y Baptiste, après toi.
Non,
Mathias il repousse.
Ouais. T'es obligé de rien.
Il est arrivé de toute façon. Hein,
ça t'es pas obligé.
Je vois le micro tourner.
Non non, t'es pas du tout obligé hein.
Je sais. Non mais on va voir. J'écoute Baptiste avec attention et j'éviserai.
Ouais, c'est. En fait, je suis un peu. Je sais pas. Il y a plein de choses, plein de petites choses quoi. Mais et c'est là où je vois aussi que c'est vraiment pas trois phases distinctes, mais c'est qu'il y a.
Les trois phases du livre.
Ouais, les trois phases du livre. Il y a toujours des moments où je mets en lumière des impacts que j'avais pas réalisés, que ça a eu. Je mets en lumière des stratégies de compensation, comme enchaîner les relations, comme ça, ou tomber éperdument amoureux les uns après les autres. Et des trucs où, en fait, non, là, j'arrive à poser mes limites, et c'est trop cool. Genre, typiquement, dans mon exploration du milieu. Gay et queer, etc. Et ma déconstruction, la notion de couple, c'est qu'est-ce que j'en fais. Moi, c'est un peu ma problématique en ce moment, c'est. Déjà, la déconstruction d'un calque introjecté de faut que je sois en couple monogame et que ça dure toute la vie, parce que dans ma famille, tout le monde est marié pour toute la vie après. Et ben, ça, il y a une déconstruction pour au final me dire ouais, mais en fait, j'ai vraiment envie d'un couple stable, alors ouvert ou fermé, ou exclusif, je sais pas. Mais la tendresse du quotidien, la complicité et le compagnonnage de vie, ça, c'est des choses que moi, en tout cas, auquel j'aspire. Donc ce truc, ça c'est moi, ça c'est mon authenticité.
Oui, c'est pas ma famille, c'est pas le modèle familial que je m'impose, c'est vraiment un morceau de moi que j'ai envie d'honorer.
Ouais. Et en fait, du coup, c'est un modèle, mais qui me, parce que ça vient des modèles, mais qui me convient vraiment, quoi.
Okay. Ouais, ouais.
Moi, j'aspire profondément. Et après, ça, c'est mon modèle, enfin, c'est mon aspiration. Après, il y a la réalité, quoi. Ma réalité, c'est que mes couples, ils durent pas. Et c'est galère je trouve ça galère. Alors, je sais pas, au niveau des exigences, ou je sais pas ce qu'il fait, là j'ai pas de réponse pourquoi, mais un truc que j'ai trouvé, là où j'ai retrouvé du réconfort dans le bouquin, c'est il dit, mais attends mec, t'as eu des impacts énormes de la honte sur, qui ont créé des traumas, donc c'est-à-dire des trucs que ton corps n'a pas métabolisé, que t'as l'impression de revivre maintenant et tout, ce qu'on parlait d'être plongé dans des hontes d'enfant aujourd'hui, c'est le trauma, c'est le corps qui a pas métabolisé comme si ça arrivait maintenant, t'as développé du coup des stratégies de compensation énormes. Et comme tous les mecs, alors bon, on a parlé un peu en préparant le podcast, mais et lui il dit aussi, en tant qu'homme, a priori, quand on est enfant, on s'identifie donc plus au père qu'à la mère, et donc on s'identifie dans une société hétéro-patriarcale à un modèle qui est souvent assez distant, déjà physiquement parce que c'est souvent celui qui bosse plus que la mère, et émotionnellement parce qu'il a été éduqué dans un truc plus à la dure en général. C'est évidemment des généralités, mais voilà, des tendances.
Mais toi, tu t'es retrouvé là-dedans en tout cas.
Moi, je me suis retrouvé, mon père, il a, sur le plan émotionnel et tout, et surtout quand j'étais dans l'adolescence, il était vachement plus. Mes parents sont thérapeutes. Et donc ils m'ont appris plein de trucs, mais sur la distance, enfin mon père il bosse de 7h du mat à 19h tous les jours quasiment, et du coup il y avait vraiment ce truc que moi j'ai le souvenir de l'absence de mon père, plus que le souvenir de mon père de quand j'étais enfant, quoi. Et donc ce que dit Alan Down, c'est ok, on a grandi avec un modèle absent, là où les hétéros vont compenser avec une partenaire qui, elle, a grandi avec un modèle où c'est la femme qui prend soin du care, du soin de la relation, qui va amener les discussions, qui va amener le soin, le cultiver le lien. Et ben nous, évidemment, dans un couple de mecs, et ben on a pas ça. C'est un peu des généralités peut-être, mais moi je me suis retrouvé un peu ça, en tout cas ça m'a un peu réconforté en disant ah bah oui, bah c'est vrai qu'avec tout ça, bah tu m'étonnes que ce soit plus compliqué de construire une relation saine et authentique, quoi.
Autocompassion, étape numéro 1 du chemin. Non, mais c'est vrai.
Ouais.
En vrai, si genre j'essaie de cheminer et que je m'auto-tabasse en disant putain, ça va pas assez vite, t'es pas assez performant, ouais, et tout, bah ouais.
C'est peut-être le plus dur, non ? Déjà, juste se kiffer un peu.
Ouais. Puis se faire un petit tap-tap sur l'épaule en mode ah, mon petit chat, c'est bien. Ouais, non, je suis d'accord. Moi, j'ai une illustration de relation passée. Est-ce que toi, Mathias, t'avais envie de bafouiller maintenant ou plus tard ?
Non, moi, je repensais au tout début de cet épisode, donc ça doit être il y a 3 heures et quelques. On parlait de...
Donc au tout début de cette soirée que les auditeurs vivent en 3 épisodes.
C'est le 3e épisode.
Ah, pardon.
Tu dis qu'à quel moment on fait les choses ? Comment est-ce qu'on sait si on fait les choses pour se valider soi parce qu'on s'aime comme ça ou pour les autres. Et moi, j'ai eu un exemple où je me suis rendu compte, il y en a plein où je sais pas, honnêtement, mais genre sur mon rapport à mon physique, je suis globalement un gringalet, j'étais maigre et j'ai commencé à sortir dans un milieu gay où les mecs étaient tous gaulés en V, en petit slip blanc.
Est-ce que tu es à l'aise de décrire ce que ça veut dire pour toi, gringalet, parce que...
1m85, 60 kilos-ish. 63 quand j'ai vraiment bien mangé, quoi.
Donc toi, tu te trouves... Parce que j'essaie pas du tout de faire... mais en fait, moi, je te considère pas... Ma alors compréhension du terme gringalet, tu rentres pas dedans, mais c'est ma compréhension.
Oui, mais est-ce que je pense que le gringalet, il est toujours au fond de moi, dans le
c'est
sens
ça.
Où c'est, j'ai été ce garçon maigre. Donc, en plus, gay, mais, enfin, voilà, encore plus fragile, entre guillemets, dans l'image que j'ai construit de moi petit. Je me suis retrouvé tout d'un coup dans un milieu... Alors j'y suis allé, hein, j'ai plongé tête dedans dans ce milieu-là où je me suis trouvé avec des mecs ultra gaulés. J'ai donc forcément eu le sentiment que je ne serais jamais à la hauteur de ça.
Gaulé, c'est donc le milieu, c'est à salle, Paris. Tu déménages à Paris.
J'arrive
quoi,
à
le milieu.
J'arrive à Paris, milieu gay, okay. De clubbing où je me retrouve avec
musclé.
Musclés, voilà, des mecs qui vont à la salle, quoi, tout simplement,
okay.
Qui font attention à leur corps, ce que je faisais pas. Et donc j'ai fantasmé ce truc-là. En voulant leur ressembler, en sachant que c'était quand même compliqué parce que je partais de loin, en étant persuadé que de toute façon je ne plairais à personne puisque je voyais moi un milieu d'entre-soi où je n'avais pas ma place, donc je voyais pas que je plaisais à des gens parce qu'en fait on n'est pas obligé d'avoir ce physique là pour plaire, donc moi j'étais persuadé que je ne plaisais pas et que je ne plairais pas. J'ai commencé à faire du sport en voulant être comme eux et il se trouve qu'en fait faire un peu de sport, je suis passé de maigre à mince. Je me suis juste un peu dessiné. Je serai jamais gaulé. Et en fait, j'ai plus envie d'être gaulé comme ces garçons. Je pensais que je voulais être comme eux parce que ça m'aurait validé. J'étais persuadé que je séduirais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il suffisait que je gagne 2 petits kilos de muscles, que je m'y mette un peu. J'ai pris un peu de protéines aussi. Je sais que t'aimes pas ça, mais voilà. Et en fait, ça m'a suffi. Et maintenant, je veux plus être gaulé. J'ai réussi à m'aimer dans mon physique. Et je dirais même que le modèle que je poursuivais à l'époque, j'espère ne jamais l'atteindre. Il y a pas de risque, il faudrait que je pousse de la fonte et je le fais pas, mais c'est plus un objectif. Et je pense que le corps que j'aime, c'est à peu près celui-là. Alors bon, on peut toujours l'améliorer un peu, tu vois. Mais et ça a été une claque parce que j'étais pendant je veux dire peut-être 33 ans. Enfin, j'exagère, mais pendant très longtemps, j'avais un modèle de ce que devait être un beau mec gay, quoi. Et effectivement, s'il était le mec de couverture de têtu, il avait pas les mêmes pecs que moi, quoi. Et aujourd'hui, j'ai plus spécialement vu de ces pecs-là. J'aime bien mes petits pecs un peu plats.
Ouais. Tout le monde valide. Enfin, je sais pas si c'est claquement de doigts. Moi, je valide, en tout cas.
J'espère que tu faisais pas ça pour avoir notre validation.
Ouais, non, ouais, ouais.
Exception.
Moi, le moment de réflexion sur les relations passées, le point là que j'ai dit avant, ça a été un tournant dans mon chemin d'authenticité, un énorme tournant quand je me suis... Donc je suis en gros resté connecté amoureusement, j'étais amoureux et en couple et hors couple avec une personne. Donc pardon, on était 3 ans ensemble, puis 3 ans pas ensemble, mais c'est 6 années. Mon cœur, ma tête n'avait de cesse de penser à lui, avec quelqu'un qui n'avait pas fait son coming out et qui était sur son chemin de coming out, mais qui ne correspondait pas du tout au mien. Et moi, j'ai eu un déclic le jour où je me suis demandé sans culpabilisation pourquoi je suis resté. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Donc, pas en mode genre c'est ma faute, c'est mal et tout, mais j'ai eu l'espace et genre j'avais la distance, le temps était passé, et je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai foutu pendant 6 ans avec quelqu'un qui est une personne magnifique et qui n'avait de cesse de me répéter je veux pas la même chose que toi et c'est non. Et moi j'étais là, je reposais la question, non mais tu vois, c'est un peu cliché et tout, enfin, c'est un peu, je suis pas complètement débile, mais j'avais quand même. Je savais ce que je voulais et je n'avais de cesse de lui en reparler puisque je suis assez têtu. Il avait de cesse très gentiment de me dire non. Et moi, j'étais là. Et je me suis vraiment... je pense que plein de choses se sont mélangées, mais je crois que longtemps, je voulais... J'étais homosexuel, mais je trouvais des relations qui capotaient et du coup, je n'étais pas homosexuel. Parce que du coup, c'était quelqu'un avec qui j'avais peu, voire pas de rapport sexuel. Hop, mon sujet de la sexualité bloqué. Bah, il se présente pas parce qu'il y en a pas. Et puis, c'est pas ma faute. Non, mais en vrai, tu vois. Alors, je te dis pas que tout ça, c'était conscientisé, mais j'observais quand même que je me trouvais dans des situations où il y avait une forme de confort inconfortable qui faisait que ça se répétait, quoi. Donc, pendant 6 ans. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah merde. Et j'ai lancé un podcast, le mec avec une seule solution. Non, mais en vrai, j'étais là, mais c'est pas possible. Et en fait, ça m'amène à la vulnérabilité consciente, qui encore aujourd'hui, moi, est très compliquée. Là, j'ai fait un épisode de podcast sur la libido en couple, ou avec des partenaires réguliers. Et donc, si je vous invite à écouter l'épisode. En tout cas, il y a un moment donné où le sexothérapeute donne une astuce... avec des post-it et tout, que je trouve trop stylé. Et depuis, j'ai envie de le mettre en place avec un de mes partenaires. Et le post-it, c'est juste une excuse pour, en fait, on note ce qu'on a envie de faire. Chacun de nous, on note ce qu'on a envie de faire avec l'autre. Sexuellement, merci. Et après, je lui donne mes post-it, il me donne ses post-it. Et moi, je mets sur une ligne, une échelle de j'ai vachement envie de le faire, ce que tu me proposes, à j'ai bof envie, pas du tout, tu vois. Et après, commence une conversation. Ben, j'ai trop peur. J'ai peur parce que du coup, je suis là, attends, je mets quoi sur les putains de post-it ? Donc là, je vois que c'est vachement compliqué pour moi de dire ce dont j'ai envie. Après, j'ai peur aussi qu'on n'ait pas assez de post-it. J'ai peur... Baptiste, on t'entend pas.
Dis qu'il y a de plus d'encre dans le stylo.
Exactement. Et après, j'ai peur qu'ils regardent mes post-it et ils sont là, mais c'est de la merde et tout. Je mets tout dans la ligne d'en bas. Enfin bon, j'ai plein de peurs et tout. Gros sujet pour moi en ce moment sur mon chemin d'authenticité, quoi. Et parce que je crois que l'authenticité pour moi, c'est je mets des petits trucs sur mes post-it pour le moment. Et si la personne elle dit ah ouais, pas du tout mon délire, ben je prends acte, tu vois. Je dis ah bah ouais, bah du coup, c'est cool. On a. Pas besoin de s'agresser, et puis qu'est-ce que ça veut dire pour notre lien, quoi. C'est flippant l'authenticité aussi, c'est poser des limites, c'est aussi... Après, j'ai quand même l'intuition que je vais faire les post-it et qu'il y aura d'autres choses qui vont... Enfin, ça va être très bien, quoi.
Et que vous allez passer une belle nuit.
Et qu'on va passer plusieurs belles nuits. Je continue. Le point d'après, identifier et modifier les modèles relationnels superficiels. Non, ça je l'ai déjà dit. Pour voir si vous suiviez. Pratique pour renforcer l'intimité. Alan Downes nous propose... Donc là, on est au point numéro 10 sur les 12. 1, 2, 3, 4. Il nous en reste 4, donc c'est pas du tout. C'est point numéro 8. Oh, quelle horreur. Vraiment nul cette numérotation. Pratique pour renforcer l'intimité, il nous invite à des activités partagées, engagées dans des activités qui favorisent la connexion émotionnelle et l'intimité, comme des passe-temps communs, des discussions profondes ou des exercices de pleine conscience pratiqués
comme des post-it
ou des exercices de pleine conscience pratiqués ensemble. Bon, ChatGPT nous rédige pas quand même des super belles phrases. Gestion des conflits, apprendre des stratégies saines pour la gestion des conflits, reconnaissant que le désaccord et les conflits peuvent être des opportunités pour approfondir l'intimité dans une relation.
Attends, mais j'ai une question. J'ai pas souvenir qu'il nous parle de faire des activités ensemble, de pleine conscience et tout ça dans le bouquin.
Ah ouais?
Est-ce que ChatGPT nous a pas inventé? Parce que ChatGPT, il peut halluciner aussi. Hein.
Mais est-ce que nous, on est en désaccord avec ça?
Non, moi je trouve ça bien. Ça,
ouais.
Je te la mets. Attends, mais est-ce que j'ai raté une page du livre?
Si, moi je me souviens que dans le bouquin... Okay. Si, parce que je suis à peu près sûr, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ah ben là, à ce moment-là, on pourra parler de tantra avec Baptiste.
Ok.
Ouais. Mais après, c'est pas un chapitre à fond sur la méditation. Soutien extérieur, ça c'est ces deux derniers points. Point numéro 11, groupe de soutien. Participer à des groupes de soutien ou à des ateliers pour les hommes homosexuels qui abordent les questions d'intimité et de relations, offrant un espace pour partager des expériences et apprendre des autres, virgule, tel un podcast, a dit ChatGPT. Mentorat et modèle, chercher des modèles relationnels sains, y compris des mentors ou des couples qui incarnent l'intimité véritable et peuvent offrir des conseils et un soutien. Ben moi, je trouve que non, je parlerai après. Vous.
Nous.
Ça vous parle? Des pratiques pour renforcer l'intimité.
Mais c'est dur, ça.
Et deuxièmement, des soutiens extérieurs.
Ça me parle en théorie. Et c'est ce que tu disais sur les post-it, c'est flippant à mettre en pratique, en fait. Enfin, je trouve. Parce que... c'est exactement ce que tu racontais, parce qu'en fait... Et si on se rend compte que, et si, si cette intimité, comment dire, et si poser les problèmes ne nous, comment dire, est-ce que c'est pas le risque, c'est pas qu'on se rende compte qu'il y a des problèmes et que finalement, non, on est bien d'accord.
Ouais, mais pour moi...
Tu vois, tu dis oui, effectivement.
Mais Thomas valide. En fait, je trouve que Alan Downs, c'est vraiment l'Américain blanc qui veut être en couple monogame. Donc, il est vachement axé sur le couple. Et je trouve ça vieillit, cette partie-là. Moi, ce que j'entends de ce qu'il dit, que je trouve intéressant, c'est regroupons-nous en non-mixité entre hommes gays et disons vulnérablement ce qui est vivant pour nous. Et je trouve que dans le podcast, ou même là, nous quatre, et ce qu'on pourrait se dire une fois que le micro est arrêté, tu vois, de peut-être des trucs encore plus intimes ou des trucs qu'on n'a pas envie de dire publiquement. En fait, c'est ça qui nous invite à faire. C'est en fait se retrouver, tu vois, des passe-temps communs ou des discussions profondes, c'est ça. Et je trouve que Baptiste, nous, on l'a vachement créé ces deux dernières années. Nous, on s'est rencontrés parce que je suis allé dans un de tes ateliers à Tantra.
Le tout premier. Tantra.
J'ai ramené Victor, qui a fait aussi un podcast un épisode sur ce podcast sur la sensualité et la caresse. Victor, allez retrouver son épisode, il est très bien. Et Victor, on s'est rencontré sur Grindr. Donc tu vois, usage des endroits où je rencontre des autres gays. Grindr pouvant être un enfer et très dangereux ou un outil. Et en fait, Victor, on va prendre un café, on baisse pas, mais je lui dis, tiens, toi et tes caresses et ta sensualité, il y a moins que le tantra, ça t'intéresse. Donc j'embarque Victor. En fait, après, avec Baptiste et Victor, tu vois, genre, on s'est retrouvés, je pense que je peux le dire,
ouais, tu peux
régulièrement, dans des, on a regardé RuPaul France ensemble. On se faisait des dîners, des sorties, des machins. Et pour la première fois, j'avais des potes gays avec qui j'étais vulnérable, avec qui on disait « Ah, je suis des bites, ah, j'ai mal là. »
Exactement, ouais. Et on était concrets, on a eu des moments d'échange. Bon, déjà, on a pratiqué du tantra ensemble aussi. Et on a eu des moments d'échange, de sorte de mini-cercle de parole à 3 ou 4, où on a dit « Putain, et toi, comment tu fais, je sais pas, le lavement, est-ce que tu fais des lavements ?»« Ah non, moi, j'en fais pas. »« Ah ok, et ça va, ouais, moi, je vais bien. » Enfin, on a vraiment parlé en termes concrets de nos sexualités.
Ouais.
Et ça, c'est un truc qui a été... Ouais, qui a été hyper fort.
Du lien à nos parents, genre ouais. Au moment de Noël et tout, de dire putain, et avec des problématiques et des souffrances et des enjeux qui sont quand même Enfin, moi, j'étais là, non, mais ça change tout de parler à quelqu'un qui est gay et qui comprend tout à fait ce que je suis en train de dire. Ça veut pas dire qu'après, j'ai pas d'autres potes qui... Mais pour moi, c'est ça que j'entends. Mathias.
Et puis là aussi, c'est un endroit qu'on n'a pas eu. C'est-à-dire que bon, peut-être que les hétéros l'ont et ils n'en ont pas profité parce que c'est dur de parler aussi entre mecs hétéros, mais ils ont pu discuter de toutes ces problématiques sexuelles. Parce qu'il était évident que quand tu parlais que t'étais un mec et que tu parlais à un autre mec, il était hétéro comme toi. Nous, on n'a pas pu parler de ça en fait. On n'a pas, même pour les plus âgés d'entre nous, pas forcément eu d'autres sources parce qu'on n'avait pas forcément internet ou, enfin, moi je sais qu'il y avait un forfait à 50 heures quand j'étais ado. Donc on avait pas ces sources là. Donc peut-être.
Toi, tu t'es senti isolé.
Ouais, oui, je pense. Et alors c'est peut-être le cas aussi finalement pour les hétéros parce que la sexualité reste compliquée à aborder, notamment quand on est ado. Mais
toi, tu dirais qu'aujourd'hui t'as ce groupe de soutien dont tu parles
maintenant. Ouais.
À qui t'es vulnérable ?
C'est des amis, ça peut même être ton mec sur certains problèmes. Et puis c'est des amis en fait, ouais. Et on peut être totalement transparent. Enfin, mes amis, ils savent. Ils ont su ma gono. Enfin, ouais, quand t'as un problème.
Ils ont su ma gonorrhée.
Ma gonorrhée, ouais. Voilà.
Et justement, pour revenir à ton point initial, tu disais, bah, peut-être que dire qu'il y a des problèmes, c'est s'enfoncer. Est-ce que t'as l'impression que quand tu partages en vulnérabilité avec ce groupe de potes, de tes sujets intimes, ça t'enfonce ?
Non, mais c'est pas quelque chose qui amène du conflit. Et moi, je reviens sur ce qu'on disait au tout début sur les stratégies. Moi, la stratégie d'éviter le conflit pour être le meilleur petit garçon possible, je cherche encore à l'enlever, cette stratégie. Mais elle est toujours là.
Baptiste claque des doigts par validation. Tu fuis le conflit ?
Ouais. Et c'est pas bien, je le sais. J'apprends et je sais très bien pourquoi. J'ai toujours fui le conflit depuis petit. Parce qu'il fallait que ce soit ce petit garçon parfait. Et le problème, c'est que c'est un truc qui, je pense, me dessert. Alors, ça veut pas dire qu'il faut que je devienne agressif, mais je pense qu'il y a un juste milieu.
Et c'est ce que Thomas disait.
Essaye de se détacher, quoi.
Ouais, Thomas, tu disais bien de poser tes limites. Poser les limites, quoi. Dire, bah non, en fait, ça me va pas. Et qui peut être source de conflit. Une fois que t'as dit non.
Ouais, c'est vraiment moi j'ai vécu comme un apprentissage, à savoir dire non, parce que j'ai eu le sentiment de toujours devoir dire oui et faire plaisir et être gentil, pas faire de vagues, bien se fondre dans le décor, être là où on nous attend, correspondre à une image projetée sur soi. Et à partir du moment où tu commences à dire non, bah t'as tout ton environnement qui est un peu chamboulé. Il en parle dans le livre, c'est même des amitiés qui cessent, des ruptures amicales, mais qui sont saines en fait, puisque à pas être authentique avec soi-même, on n'est pas authentique avec les autres. Du coup, bah, tu parlais des amitiés sincères, des amitiés authentiques. Moi, c'est quelque chose que je vis, je le ressens dans les... Alors, j'ai vraiment des amitiés très fortes qui datent de la petite enfance. J'ai 3-4 personnes qui sont un peu des piliers, c'est la base, et aujourd'hui j'ai encore peur du rejet de ces personnes-là quand je vais dévoiler des parties de moi que je suis en train de découvrir, parce que on parlait aussi de la rencontre, le chemin d'authenticité, ça va dans des expériences, ça va dans des rencontres, et à chaque fois ça va aussi, enfin moi ce qui est très fort, c'est que c'est une rencontre avec moi-même. Des parties de moi-même, et quand j'ai envie de le partager avec des personnes qui me connaissent depuis longtemps, je suis flippé d'être rejeté, même à mes parents. À un moment donné, il y a des choses que je n'aborde plus avec mes parents, mais des amis, ça reste cette peur du rejet, elle est toujours là quand même.
Moi, j'ai l'impression qu'il y aurait un chouette échange troc. Faudrait que Baptiste lise le livre de Mathias, qui a plein de clés et d'intelligence.
Parles de 4% en théorie aux éditions Goutte d'Or, c'est ça ?
Exactement.
Je vais mettre mon nom pour être tiré au sort, je vous préviens.
Ah, bien sûr. Sur bit.ly/comment devenir, il faut y aller.
Évidemment.
Et non, mais en fait, c'était pas une blague. Et vice-versa, que toi, Mathias, t'essayes le tantra un jour, si t'avais envie de Baptiste. T'as un site facile à dire ou pas?
C'est tantra-du-haut donc tiré du 6 O, la lettre O avec un accent circonflexe sur Facebook, et Tantra underscore O underscore officiel sur Instagram.
Parce que je sais que j'ai pas le droit de dire les structures et ce qui se passe dans le Tantra, mais je vais le faire quand même, non, je rigole. Non mais en fait, j'ai trouvé qu'il y a plusieurs structures. Donc une structure de Tantra, c'est un genre, on est un groupe et il y a plusieurs moments, mini-ateliers, où en fait, tu as une règle du jeu, un jeu, et tu décides si tu veux y jouer ou pas. Quoi. C'est pas très compliqué. Et il y en a pas mal qui parlent du consentement, enfin qui traite justement de je vais faire un petit jeu où je dis non. Alors c'est pas ça le jeu, hein. C'est pas genre tu dis non, mais il va se passer un truc où tu vas devoir incarner ton alignement, donc tu peux décider que c'est oui, que c'est non, machin. Et moi, j'ai trouvé que c'était très simple comme configuration. Donc, tu es avec d'autres personnes. Hein. Et à la fois, ça vient te faire exercer ce muscle. Et toi, Mathias, tu disais que tu étais assez d'accord avec Alan Downes qui disait passez pas 1000 ans en psychanalyse à ressasser et à un moment donné, passer à l'action. Je trouve que le tantra peut être... Pas d'une façon, mais après, il y a plein d'autres façons de petit à petit conquérir.
Et d'ailleurs, j'ai écouté les épisodes de Mathias et je me suis dit, putain, j'ai très envie de le lire et j'allais le lire, mais après, il y a eu l'épisode de
Velvet. En vrai, j'ai ma version, je te la donne, je te la prête.
Chut. Et c'est ça aussi, je voulais réagir tout à l'heure là, quand tu as dit ça. Et moi une des prises de conscience que j'ai eues il y a quelques temps, ouais, c'est ça, c'est comprendre, c'est pas transformer. Et je peux comprendre un truc sur moi-même, mais ça ne va pas m'empêcher de le rejouer et de le rejouer.
Ouais.
Et c'est là où le tantra, pour moi, c'est bon, après, c'est ma voix et c'est kiffant et tout ça. Mais c'est une voix expérientielle, c'est une voix expérimentale. Je tâtonne, j'expérimente et j'apprends de mes expériences. Et donc, c'est en me mettant dans des situations, c'est en faisant des expériences que je suis là, ah ok, ah, ben, en fait, dans ma tête, je pensais que, et en fait, ça s'est passé différemment. Et c'est pour ça qu'on a plein de trucs, notamment sur le... Il y a pas mal de choses, par exemple, un exemple, c'est le choix des partenaires avec qui je vais faire une pratique, qui peut être toute simple, c'est juste de se regarder dans les yeux, comme ça. Et souvent, on a tout de suite des projections, comme tu disais, t'arrives, tu scannes la salle, tac, lui c'est un 10, lui c'est un 5, lui, etc. Et en fait, tu te rends compte en tantra, et c'est ça qu'on adore, souvent les gens qui ont fait un peu de tantra, ils disent... Et c'est le moment où j'ai pas été avec la personne que j'étais avec la personne que je voulais surtout pas. Et d'ailleurs, c'était mon premier stage. Il y a eu un moment comme ça aussi. La personne que je pouvais pas blairer dans le stage, et c'est là où j'ai eu l'expérience la plus forte et le moment un peu initiatique de mon stage. C'était vraiment parce que je suis là, ah non, surtout pas avec lui. Et en fait, c'est venu, mais ça a été mon pont et pour d'un coup rentrer dans une expérience beaucoup plus forte. Quoi.
Mais c'est pour ça que, enfin, moi, je rebondis sur ça. Je trouve que c'est c'est un peu pour ça que je te demandais, toi, Mathias, est-ce que dans ton cheminement d'écrire le livre, puis de le partager à ton entourage, et donc d'avoir des nouveaux rapports avec tes parents, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Parce que moi, un des éléments clés de mon chemin d'authenticité, ça a été justement de poser des mots. Et de poser des limites et de poser des mots avec mon entourage, d'oser avec mon entourage, avec ma famille, quoi. Et donc là, bon, moi, je suis dans un process où j'essaye de retrouver l'amoureux effacé de mon grand-oncle, donc mon grand-oncle qui est décédé en 89. Et en fait, j'ai découvert qu'il aurait eu un amoureux pendant 6 ans. Tout le monde le connaissait, mais personne ne le connaissait. Puis il a été effacé de l'histoire familiale. Et donc, je suis en train d'essayer de le retrouver. Et ce faisant, en fait, je pose des questions à toute ma famille. Et en fait, ce faisant, je lève un non-dit sur l'homosexualité qui m'impacte encore aujourd'hui. Puisque pour la première fois, je parle d'homosexualité à tous ces gens qui m'entourent. Et donc, vulnérablement, je m'expose en racontant. Et c'est un peu ce que j'ai raconté dans l'épisode, je sais pas, le 1 ou le 2 de ce moment-là qu'on passe ensemble. Le précédent ou l'ancien encore. J'ai raconté le truc de ma mère et la PrEP. Et en fait, ça, je trouve, ça change tout de vulnérablement dire... où j'en suis, qui je suis, mes blessures, dans une limite qui est bonne pour moi. Je raconte pas tout à mes parents, ma famille et tout, mais ça me transforme. C'est transformateur d'une façon tellement puissante de dire, par exemple, en remettant des mots, j'ai des amis de lycée qui m'ont dit, si en fait t'as vécu un harcèlement, parce que au début je sais pas si c'est vraiment un harcèlement, et j'ai une pote qui m'a dit, mais tu rigoles, c'était tous les jours. Non-stop pendant des mois et des mois. Et en fait, sa vigueur, enfin, tu vois, 20 ans ont passé et elle, elle s'en souvenait parfaitement. Et le moment où moi, du coup, j'ai pu dire, ah bah oui, c'est une évidence, je m'en souviens bien. Et qu'en fait, j'ai pu le partager avec ma famille. Bah, en fait, ça a transformé, ça a évacué un énorme truc. Et donc, d'amorcer le, bah oui, en fait, être homosexuel hier et aujourd'hui, il y a une réalité et je vais vous la partager vulnérablement. Et enfin, je peux être authentiquement moi, quoi.
Mais c'est un exercice difficile.
Bien sûr.
Moi, je pense que je suis passé par le bouquin hypocritement, peut-être. Enfin, c'est-à-dire que d'un côté, je savais très bien ce que je faisais. Et en même temps, j'étais très angoissé à l'idée que quelqu'un, et ce quelqu'un étant mes parents, mes proches, enfin les plus proches, mon frère, allait le lire. Donc j'étais dans un espèce de truc complètement dichotomique où j'écrivais, je me mettais à nu et je racontais une réalité qui au final a été ultra utile. Enfin ma mère m'a demandé, parce qu'il y a une scène de violence homophobe dedans, que j'avais jamais osé raconter à mes parents pour pas les inquiéter. Et j'avais même zappé qu'ils le savaient pas, donc quand ils ont lu le livre, ils l'ont découverte. Et ça a permis de créer une discussion sur, ah ben en fait... Peut-être que quand tu rentres de soirée un peu habillé léger, tu peux te faire agresser. Ils n'imaginaient pas ça parce que je suis un mec. Et ça, on imagine pour les filles. Donc ça leur a permis de se rendre compte de certaines choses. Mais c'est bizarre parce que je n'avais jamais osé leur dire. Et il a fallu que je l'écrive dans un bouquin.
Complètement.
Que j'ai vendu à la FNAC pour finalement réussir à leur dire. Bon, c'est le fameux bricolage que j'ai trouvé.
Bah de ouf. Et, moi, et je crois que c'est ce que j'essayais de dire. Baptiste racontait une expérience de expérimenter dans son corps... et aller tu vois dans un univers et moi j'avais envie de raconter le aussi expérimenter par poser des mots, enfin dans le chemin d'authenticité il y a plein de trucs mais moi j'ai trouvé ça tellement réparateur quand puisque je racontais tout ça à ma mère par exemple, elle s'est mise à pleurer quand elle s'est rendue compte de la réalité homophobe où je disais, ben non, je peux pas tenir la main à un garçon. Ben oui, j'habite à Paris, Boboland, mais en fait, il y a des regards, il y a des insultes, possibilement il y a des coups, donc t'es là, attends, ce soir-là, est-ce que j'ai envie de passer une bonne soirée ou prendre des risques, etc. Et je sais que ces larmes, et pareil, mon frère s'est mis à pleurer quand j'ai raconté un autre truc, où je voyais dans leurs yeux qu'ils découvraient le délire, ben ça a tout changé pour moi, c'est un détail qui a tout changé. Il y a un terrain empathique qui s'est créé, qui n'existait pas avant. Et je sais que je suis un adulte, que ma famille, c'est important, mais à la fois, enfin, voilà, je vis pas avec eux au quotidien. Et pour autant, ça a tout changé. Cette vulnérabilité, parce qu'elle a bien été accueillie, elle a tout changé, quoi.
Et peut-être que si elle est... Alors, je sais pas si dans le cas des parents, c'est différent, mais peut-être que quand elle est mal accueillie, est-ce que ça doit être un signal que, justement, ces gens-là n'ont pas à être dans notre cercle ?
Pour moi, c'est oui.
Ça, ah, il le dit, hein, il dit gardez votre cercle intérieur, il dit inner circle, votre cercle intérieur.
L'auteur safe. Du livre.
Ouais.
Pas voir.
Oui, pardon. Ce qu'il dit, donc Adam Downes, il dit je vais le dire en anglais et puis on va le traduire d'une manière ou d'une autre, si je le retrouve.
Tu feras ChatGPT pour le traduire.
Non. Mais tu le disais, toi, je trouve, Thomas, tu le disais vachement bien, tu disais il y a un moment donné, flemme.
Ouais, c'est ça. Et c'est, lui, il dit vraiment, faites vraiment gaffe et gardez vraiment une sorte de d'enclos pour avoir un cercle d'intimité. Safe. Ou, qui soit safe et sacré. Il dit safe et sacré. Et parce que c'est comme ça, c'est parce que ces gens, en fait, une fois qu'on laisse des gens entrer dans notre intimité, ils ont une influence sur nous qui est monumentale.
Et Thomas, tu disais flemme et que dans ce chemin d'authenticité, du coup même, t'as décidé de pas aller à certains rencontres familiales. Enfin, je crois que dans l'épisode précédent, tu disais, bon, avant, j'y allais, puis un jour, j'ai arrêté d'y aller en choix aussi de poser des... T'es pas obligé de rebondir là-dessus, mais on arrive à la fin et j'ai plutôt envie de vous inviter à une dernière bafouille plus que de te forcer à aller dans cette direction. C'est quoi ta bafouille ? On finit sur quoi ? On finit sur chacun d'entre vous, vous allez dire vous en êtes où de votre chemin d'authenticité ?
Parfait.
De façon succincte.
Parfait, parce que j'avais envie de parler de ça.
Ah.
La question de la réconciliation.
Tant mieux.
Et ça va être court. Mais pour moi, le chemin d'authenticité, ça a été la réconciliation avec un peu une rupture originelle que j'ai subie indirectement, qui est celle de mes parents. Mais je sais que ça a influencé toutes mes relations derrière avec des garçons.
Le divorce de tes parents ?
Ouais, et la séparation que moi j'ai eue avec mon père. Mais j'ai mis des années à le comprendre qu'en fait il y avait eu aussi une rupture du lien entre le père et le fils. Et j'avais toujours un peu fantasmé la relation du père toxique qui veut en fait sculpter son fils. Et puis ma mère était très là-dedans aussi, donc c'était compliqué d'avoir ma version des faits et la version de mon père. Et donc la dernière rupture, là, parce que depuis cette relation, je suis célibataire. Je me suis dit, je vais réparer ça. Et donc, ça m'a pris beaucoup de séances de psy. Mais j'ai réussi à parler et à réinstaurer un dialogue avec mon père. Et ça m'a apaisé vraiment, vraiment, vraiment très, très fort. Et je ne sais pas c'est quoi la suite. Mais en tout cas, ce chemin de réconciliation, quand il est entrepris avec les bons mots, sans colère, sans agressivité dans la communication. J'invite vraiment...
Toi, t'as aimé, quoi.
J'ai aimé et je vois les effets aujourd'hui. Ouais. Ça a réparé des choses. Ça a réparé certaines choses.
Ouais.
Donc voilà ce sur quoi j'avais envie de bafouiller en conclusion. Merci.
Moi, je crois que j'ai envie de conclure sur... En fait, c'est tout à la fois, quoi. Il y a vraiment ce truc... Bon, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais... En fait, déjà, le chemin d'authenticité... Bon, je crois que je l'ai assez dit, mais Dieu merci, j'ai rencontré le tantra jeune dans ma vie, parce que ça m'a vraiment plongé dans un truc d'authenticité sur plein d'aspects de moi-même, déjà, où je vois que, ok, ça m'a fait cheminer assez vite, ça, c'est chouette. Donc, et puis aujourd'hui, avec ce qu'on disait tout à l'heure sur notre groupe, sur nos cercles de parole informels qu'on a entre nous, et ce qui ne m'empêche pas aussi de mettre en lumière des trucs, même encore ce soir, là, pendant la discussion sur « Ah ouais, en fait, j'ai vécu ça, et la honte, elle a eu tel impact sur moi. Et aussi, du coup, ma réaction, mes stratégies de compensation... » Et là, du coup, attends, ce que je suis en train de faire, par exemple, mes choix de carrière actuellement, je l'ai fait pour moi ou je l'ai fait par envie de validation et tout. Tout ça, il y a un peu tout à la fois, quoi. Et en vrai, c'est kiffant. Enfin, tu vois, je trouve que c'est tellement libérateur. Je me dis, putain, et en fait, à chaque fois, je marche un peu plus près de moi-même. Je me rapproche un peu plus près de qui je suis. Et ouais, méga kiff, quoi. Trop bien.
Effectivement, je crois que donc il y a ces trois étapes là dont on a parlé dans le livre et que j'ai l'impression d'être sur certains points encore à la première, donc vraiment dans la honte, et sur d'autres où je me connais, je sais qui je suis et je sais ce que je veux, et que on navigue comme ça entre toutes ces étapes et peut-être que ce sera le cas toute notre vie et c'est pas très grave. Ce que je sais, c'est que il y a un des trucs pour moi en tout cas que je vois comme une des clés de travail, c'est la reconnexion à ses émotions, quelque chose que en tant que garçon on nous apprend pas. Qu'en tant que garçon gay, alors on est censé être un peu plus féminin, donc un peu plus émotionnel, mais on est aussi censé se blinder un peu plus pour survivre dans ce monde. Et je sais que moi c'est ce verrou là que je travaille, et que le jour où il va péter, ça va beaucoup chialer, mais ça va être bien, ça va être cool. Je pense qu'on vit beaucoup. Beaucoup de gens, dont moi, vivent éloignés de leurs émotions. Et on est dans des sociétés d'ailleurs qu'on nous incite à être le moins dans l'émotion possible. Et c'est un travail difficile. Peut-être que le tantra peut aider. Mais...
Ouais, moi, ça me frappe. Ça me frappe juste le petit test de le moment où. Par automatisme, je prends mon téléphone pour vérifier si j'ai pas des nouvelles notifications et que je me pose et que je le fais pas, je vois toujours que j'étais en train d'essayer de fuir une émotion. Soit de l'ennui, soit de l'anxiété, soit du stress, soit de la confusion où je suis là, attends, je fais quoi là, je suis qui et tout. Mais c'est marrant parce que et puis tu vois, j'avais fait moi un parcours de coaching, je m'étais formé au coaching et le cœur de ce programme que j'avais trouvé passionnant, c'était de ne plus faire tampon, de ne plus éviter les émotions, donc d'identifier toutes les stratégies d'évitement, assez similaires à ce qu'on a fait ce soir, pour ne pas ressentir et apprendre à ressentir. Et en fait, une émotion, ça dure entre 90 secondes. Enfin, tu vois, genre un ressenti comme ça, genre un moment où j'ai une petite douche d'ennui ou une petite douche de tristesse ou machin. En fait, mon cerveau est un peu en balise, mais en vrai, en 90 secondes, l'affaire est faite, ou parfois un peu plus. Mais en tout cas, elle a besoin de s'évacuer, de se vivre, de se dire, il y a un truc qui a besoin de sortir. Et de toute façon, t'auras beau, Guillaume, checker pour la 10e fois tes mails ou ton Instagram, l'émotion, elle devra sortir. De toute façon, elle est là et elle va pas, elle aura besoin de sortir. Donc après, elle te fait du psoriasis, elle te fait tout un tas de trucs. Tu vois ce que je veux dire? Mais de toute façon, elle va s'exprimer. Le problème, c'est que plus je l'étouffe, et moins dans sa façon de s'exprimer, elle va être compréhensible. Parce que du coup, la tristesse va se transformer genre en colère. Donc, je vais être là, mais pourquoi je suis trop vénère, en fait? Mais je trouve que c'est passionnant et ça fait vraiment partie de mon chemin. Et moi, ma dernière bafouille, c'est une immense joie.
Ouais.
Ouais, immense joie. Franchement, plein de galères. Moi, pareil que toi, hein, les trois étapes, moi, je suis dans les trois en même temps. Il y a plein de trucs qui se jouent. Mais immense joie, ouais, de construire, de ce moment ce soir qui pour moi est symptomatique de ma joie authentique, de me dire en fait, on est des millions de gays, PD, queer, hétéroflexibles qui vivons cette violence et la violence du monde hétéro, d'être différent, ses peurs, etc. Et de mettre des petites graines de moi en moi et de nous, tu vois, de chacun de ces épisodes de podcast, de ces témoignages de ce soir et tout, qui retentissent puissamment, quoi. Et j'aurai soin de vous envoyer, si les auditeurs, parfois, ils envoient des « Ah, j'ai pensé ça, j'ai aimé ça », je vous les partagerai, mais c'est impressionnant comment on a perdu plein de gens parce que cet épisode est trop long, parce que les gens sont là « Putain, ils me cassent les couilles, ça me parle pas, je m'en tape et tout ». Mais ceux qui sont encore là, qui nous écoutent, et il y en a qui nous écoutent dans 3 ans.
Ouais, ça c'est
et
ça
pour,
c'est
et pour qui il y a genre un « ah putain ». Et c'est un tout petit « ah putain ». C'est un tout petit genre « ah ouais, Thomas, il a dit un truc ». Mais en fait, je trouve ça trop merveilleux parce que c'est comme une petite pierre dans un lac. Ça fait des ondes jusqu'au rivage, tu vois. Et ça remplit tout le lac. Et moi, je trouve ça trop joyeux. Voilà. C'est mon mot de la fin. Merci. J'avais un autre mot de la fin, un peu plus logistique. J'ai pas dit un truc que je trouve assez important, mais ça va être nul. Bon, on s'en fout, de toute façon, les gens sont plus là. En fait, on en parlait dans la pause là tout à l'heure, mais le livre audio, donc moi, j'invite les gens à lire ce livre, ou à l'écouter, ou à le lire, ou à le trouver d'occasion, ou à l'acheter neuf et tout. Moi, j'ai trouvé que cette dernière partie, j'ai pas du tout aimé. Et je le dis à la toute fin pour pas, genre, biaiser vous et les gens et tout. Mais franchement, j'ai trouvé que c'était... Il m'a saoulé avec ses solutions toutes faites. J'étais là, vas-y, tu me saoules avec tes solutions.
Okay. Je suis totalement d'accord. En fait, mais c'est super intéressant, mais c'est du développement personnel. C'est autre chose pour moi.
Ouais, c'est ça. Vous allez pouvoir réagir. Je voulais juste dire que j'ai trouvé que... j'invite quand même les gens à le lire ou à l'écouter sur Audible ou une autre plateforme, je m'en tape. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que sur Audible, j'avais peur de l'anglais. Et en fait, l'anglais est assez simple, ça allait doucement et tout, et je pouvais même mettre plus ou moins vite. Et en fait, faut avoir un petit niveau d'anglais, mais ça va, quoi. C'est pas des mots compliqués. Et je voulais juste dire ce petit truc logistique, parce qu'en fait, sur Audible, c'est gratuit avec mon lien, nanana. Donc en fait, allez-y, écoutez-le, parce que en mode résonance, il y a moyen que ça résonne, quoi. Donc même s'il y a plein de trucs pourris ou datés, tu vois. Non, mais dans le livre, il y a des moments où. Ou Alan Downs, il a un peu abusé sur le poulet aux antibiotiques américains. Baptiste, pas du tout d'accord.
Autant je suis d'accord avec plein de trucs qu'on m'a dit, comme le ton hyper généraliste, c'est genre l'homme gay vit ça, et ça, j'étais pas d'accord. Autant la dernière partie, moi, ça a résonné de ouf. Tu vois, genre, cultiver la joie, il passe vachement de temps. Et les petites joies, cultiver plutôt être content, dans le sens le contentement de la situation plutôt que la validation ambitionnée, etc. Le truc de assess your own responsibility first, il dit. Donc, enfin, dans un conflit,
d'abord.
Pose-toi la question de quelle est ma responsabilité en premier. Et ça, c'est un de mes piliers. Et je trouve ça hyper intéressant toujours le dialogue avec l'autre de « Ok, bah moi, j'ai merdé à ce niveau-là et ça, je reconnais. » Mais du coup, je peux te dire, mais toi, par contre, t'as merdé à ce niveau-là. Et du coup, non pas en vengeance, mais on peut se retrouver. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça.
Parlé, quoi. Toi, Thomas, aussi, tu t'es pas d'accord avec moi, t'as aimé cette troisième partie.
Ouais, puis moi, je me suis retrouvé aussi dans la lecture en anglais, parce que j'ai des origines anglaises. Donc, même culturellement, la langue anglaise me parle plus à mes émotions.
Ah ouais.
Il y en a un que je retiens dans le tableau qui est à la fin du livre, qui est un peu la to-do list du bonheur pour les gays. C'est cultiver l'ambivalence.
Ah.
Et ça, c'est un truc au quotidien, je l'applique dans
c'est
les
relations.
C'est
quoi pour relations. Toi, l'ambivalence? Donne-moi un exemple où tu l'as appliqué la dernière fois.
C'est que ça va être dans le contexte professionnel, je vais me saisir d'un sujet avec passion et embarquer 2-3 collègues dedans, comme, je sais pas, monter un nouveau guide pour faire je sais pas quoi en lien avec son travail ou une présentation PowerPoint ou une formation, et le lendemain avoir juste vraiment la flemme de le faire et de dire mais c'est pas grave en fait, parce que mes collègues vont le faire, sauf que les collègues me disent attends, tu fais quoi là? Je sais non mais ça, aujourd'hui ça me procure pas de joie de le faire, donc je vais faire le minimum, mais demain j'aurai beaucoup plus de joie à le faire et j'aurai plaisir à revenir le faire avec toi. Donc, c'est un peu les montagnes russes, quoi. C'est, okay. C'est le en même temps, et c'est dire, c'est OK, en fait. C'est ni noir, ni blanc, c'est gris, c'est toutes les couleurs qu'on veut. Enfin, c'est un peu ça.
Mm-hmm. Toi, Mathias, toi aussi, ça t'a fait chier?
En fait, j'ai trouvé que c'était plus du développement personnel. Et du coup, c'est peut-être pas ce que j'attendais.
Et après, pas lié à l'homosexualité, pas.
Oui, voilà. Et en même temps, je suis en train de faire mon autocritique. Je suis en train de me dire, peut-être que les deux premières parties, elles me permettent bien d'intellectualiser le truc, de me faire de la bonne tambouille mentale, alors que la dernière, elle me demande d'agir. Et peut-être que c'est une stratégie de défense de ne pas aimer cette troisième partie, parce que c'est le moment où il faut y aller.
Oui, parce que pour le coup, je trouve que tout ce qu'il dit, il y a des pépites. Genre, là, je suis très aligné avec.
Je suis d'accord avec tout ce qu'il propose.
Ouais, de ouf.
Mais ça m'a pas emballé dans ce cadre-là, de ce livre-là, quoi. Mais peut-être c'est juste parce qu'il faut que je le fasse, en fait. Ça n'a pas envie.
Ouais, j'entends ce que tu dis, ouais. Et puis, moi, je me sentais un peu oppressé par toutes ces petites cases dans lesquelles je devais rentrer soudainement, mais je crois que je devais être de mauvais poil. Tu vois, je pense qu'au final, c'est à écouter, tu t'inspires, tu mets dans tes mots, tu modifies, mais en tout cas, je trouve que ce qu'il dit, c'est dans la bonne lancée, quoi. C'est malin. Et je trouve qu'il termine aussi par un puissant témoignage de séropositivité, où en gros, il dit, parce que là, en tout cas, sur Audible, c'est 2012, c'est la deuxième version, mais maintenant, je crois qu'il n'y a que la nouvelle version qui est publiée. Il a fait une révision de son texte et il a conclu en disant, sur mon chemin d'authenticité, je dois vous dire que je suis séropositif et que c'est quand même... Et j'ai trouvé que c'était beau et important. Et en effet...
Et que lui se mette aussi dans ce truc, moi, mes galères avec ma honte et tout ça, et ça a été ça, dealer avec ma séropositivité, etc. Ça, c'était hyper touchant de voir, il se pose... Il se met pas seulement en tant que psychologue, mais il se met aussi en tant que PD en cheminement, quoi. Ça, c'est cool.
Il est 22h, je ne vous ai pas offert à manger... Parce que je voulais pas de bruit de bouche. Vous devez être en PLS. Et je vois que la citronnade bio citron est encore pleine. Nous allons pouvoir la déguster. C'est tout, hein. Me regardez pas, j'ai pas plus.
Parfait, parfait.
Merci, franchement, merci.
Merci Guillaume.
Merci
Thomas et Mathias.
Je suis mort, mais je suis content.
ouais.
C'est intense.
Il est 22h.
Ouais. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment-devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien, Il te suffit de cliquer sur « s'abonner » ou « suivre » sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.